La Covidienne. Du lundi au jeudi, 30 minutes d'actu, virale et collégiale. Une émission de Radio Campus Angers, réalisée depuis nos maisons.
Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Il est 18h et vous êtes actuellement branchés sur Radio Campus Angers. Pas besoin de masque ou de distance de sécurité avec votre radio préférée, vous embarquez à bord de la Covidienne, notre quasi-quotidienne d'actualité confinée. Au programme de l'émission de ce soir, Quentin est parti à la rencontre de Corinne Vadet, directrice générale du CROUS des Pays de la Loire, pour découvrir les différentes actions qu'ils mettent en place pour les étudiants. Pour la seconde partie d'émission, nous continuerons notre rétrospective sur les reportages immersifs Murmure, le guide sonore des territoires, à la découverte d'acteurs locaux. Nous partirons aujourd'hui au cœur d'une prévention avec l'association ACVS 49 qui lutte contre le harcèlement scolaire. Ne bougez surtout pas, on commence dans quelques instants sur Radio Campus Angers. Après avoir découvert la situation actuelle des jeunes en études supérieures avec la FEDESA sur l'émission d'hier, nous commençons celle de ce soir sur une rencontre avec le CROUS. Quentin a échangé avec Corinne Vadet, directrice générale du CROUS des Pays de la Loire, pour découvrir les différentes actions mises en place pour soutenir les étudiants. Je vous laisse découvrir ça et on se retrouve juste après sur Radio Campus Angers.
Alors, depuis le début de la crise sanitaire liée à l'épidémie Covid-19, le CROUS de Nantes Pays de la Loire est mobilisé afin d'assurer la continuité de sa mission des services publics auprès des étudiants, tout en garantissant la protection de ses personnels. Plusieurs actions sont mises en place, dont la distribution gratuite des paniers alimentaires. Et avec moi pour en parler, Corinne Vadet, directrice générale du CROUS de Nantes Pays de la Loire. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Alors, près de 2500 étudiants sont encore présents dans les cités U et résidences U. Vous accompagnez au quotidien ces jeunes étudiants qui subissent cette crise, notamment avec des paniers alimentaires. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette action-là et puis de la situation des étudiants de manière générale?
Alors tout à fait, encore aujourd'hui on compte 2500 étudiants logés sur l'ensemble des cités résidences du CROUS, donc de Nantes, Pays de la Loire, et dans le cadre de l'accompagnement du CROUS, ces étudiants en confinés pendant la période de confinement notamment, c'était l'accompagnement financier et l'accompagnement en produits alimentaires. Donc ces actions, elles sont complémentaires parce que l'accompagnement financier a été mis en place dès le début du confinement, mais on a vu que finalement des étudiants ne sollicitaient pas les assistantes sociales. Donc on a mis en place une distribution de paniers alimentaires pour être au plus près des étudiants, parce que celle-ci se fait systématiquement dans l'ensemble des cités et des résidences. Donc les étudiants s'inscrivent sur sur MSE et puis pour nous organiser et faire en sorte que les gestes barrières soient respectés. Donc elles sont organisées depuis près de 2 semaines à présent et dans toutes les villes, selon le jour de la semaine, selon les villes, cette organisation et cette distribution est organisée.
Alors, sur cette organisation, vous sollicitez des associations, des producteurs locaux pour participer à ce projet-là?
Alors, on se met en relation avec des associations. Il y a le Secours Populaire, il y a les Restos du Cœur et il y a aussi d'autres associations étudiantes, notamment sur Nantes, par exemple, ou sur Angers. Sur le Mans, il y a la ville du Mans qui participe également à ces distributions. Donc nous, au niveau du CROUS, c'est un complément sur des denrées non périssables. Donc ce sont des produits de la vie quotidienne comme du lait, des pâtes, du riz, des produits de compote, des choses comme ça. Donc ce ne sont pas des denrées périssables pour permettre à l'étudiant de les conserver le plus longtemps possible. Donc c'est complémentaire aux actions des associations caritatives.
Et alors, globalement, en termes de produits, vous réfléchissez à des produits un petit peu équilibrés. On sait que les étudiants, des fois, ont du mal à se nourrir sainement. C'est un petit peu le nerf de la guerre pour des étudiants qui sont en manque de moyens aussi.
Alors, oui, tout à fait. Après, cette partie-là va venir dans un second temps avec la réouverture des structures de restauration liées au déconfinement. Donc là, cette semaine, on est en train de préparer dans chaque ville les réouvertures de cafétérias de vente à emporter. Dans un premier temps, on aura des produits qui seront issus de l'agroalimentaire pour remettre en place nos structures. Et ensuite, plus tard, plutôt début juin, on refera une production maison avec des produits, à ce moment-là, bien sûr, plus équilibrés. Mais il faut comprendre que on a un temps d'adaptation de nos structures qui, elles, sont fermées depuis 2 mois. Donc, les choses doivent se mettre en place progressivement.
Le fait qu'il y ait l'ensemble des restaurants universitaires qui aient été fermés pendant le confinement, c'était primordial selon vous, ou il y aurait pu avoir un aménagement pour les personnes, les étudiants qui ont été obligés de rester chez eux?
Alors, déjà, il fallait répondre aux consignes du gouvernement, c'est-à-dire que la restauration était fermée. Donc, c'est pour ça que nous, on a fermé l'ensemble de nos structures dès le 17 mars et que, aussi, les personnels de la restauration étaient mobilisés pour venir en renfort de l'hébergement, pour justement accompagner les étudiants logés. Donc, il y a eu une partie des personnels de restauration qui sont venus accompagner les collègues de l'hébergement. Donc, les mesures de fermeture des restaurants répondaient à des mesures gouvernementales. Donc, la vente à emporter, on la remet en place parce que c'est la seule modalité acceptée. On l'avait pas fait précédemment parce qu'on a préféré, pour les étudiants logés, aller au plus près des résidences, étant donné que les campus étaient fermés et qu'il n'y avait plus de cours en présentiel. Donc, c'est aussi la raison du dispositif mis en place.
Vous avez, entre les étudiants qui sont logés et d'autres non logés, vous avez une méthode d'approche qui est un petit peu différente. Ce qu'on sait que la précarité aussi étudiante est très présente à cause du confinement.
Alors, la méthode d'approche, elle est similaire dans l'aide versée, les montants en euros ou le versement de chèques services qu'on peut attribuer à chaque étudiant qui sollicite une aide. Donc l'aide financière, elle est la même, qu'on soit étudiant logé ou pas logé, à partir du moment où l'étudiant fait part d'une difficulté financière pour son quotidien. Sur les étudiants logés, il y a une approche complémentaire, c'est-à-dire qu'il y a l'accompagnement psychologique qui est mis en place avec les services de santé universitaire ou avec les psychologues avec qui nous, on est en relation par une convention avec le réseau Absitude. Donc ces permanences-là, elles ont été renforcées. Elles sont gratuites pour les étudiants logés et donc elles s'adressent directement à ces étudiants-là parce que c'est vrai que le confinement peut avoir eu des conséquences psychologiques liées à l'isolement, liées au fait qu'on peut plus voir ses proches ou même se déplacer selon ses souhaits. Donc c'est complémentaire. L'aide financière, elle est la même qu'on soit logé ou pas logé. L'aide psychologique, elle est plus prégnante et plus accentuée pour les étudiants logés, comme le suivi sanitaire qu'on a mis aussi en place avec les services de santé universitaires pour les étudiants logés qui étaient présentés des symptômes du Covid ou qui étaient potentiellement malades du Covid, qu'on a là largement accompagné. On a mis aussi en place un suivi de proximité avec tous les étudiants logés, avec un phoning toutes les semaines. Toutes les semaines, on a appelé tous les étudiants logés pour prendre de leurs nouvelles. Et s'ils ne nous répondaient pas, on allait toquer à leur porte pour s'assurer qu'ils allaient bien. Donc, vous voyez, ça, c'est des mesures qu'on a mis en place spécifiquement pour les étudiants logés du fait du confinement.
Et cette proximité que vous instaurez, elle rentre aussi dans l'idée d'être solidaire sur cette période qui est quand même assez dure. Il y avait beaucoup d'étudiants qui pouvaient être inquiets parfois par rapport à leur bourse. De ce que j'ai vu, les bourses universitaires ne changent pas n'ont pas changé pendant le confinement et ne vont pas changer.
Alors, tout à fait. Les bourses sur critères sociaux versées par le CROUS ont bien évidemment été maintenues. Il n'y a eu aucune rupture de versement des bourses pendant les périodes de confinement. Donc là, on a payé, par exemple, plus de 40 000 bourses à la fin du mois d'avril, comme ça a été le cas fin mars. Il n'y a eu aucune rupture du versement des bourses pour les étudiants boursiers, qu'ils soient logés ou non logés. Hein, de 40 000 bourses, vous voyez, c'est largement au-delà du nombre d'étudiants logés. Donc là, c'était bien évidemment le point d'attention des services de la vie étudiante de CROUS. C'est pour ça que ça fait partie d'une mission essentielle qui a été maintenue en télétravail pendant les 2 mois de confinement pour éviter toute rupture, c'était vraiment une attention particulière, comme on a eu la même attention pour les personnels du CROUS, pour que les salaires aux Suisses soient versés de façon très régulière, avec toutes les modalités prévues.
Vous me parliez de télétravail. Beaucoup ont déploré être en manque parfois de moyens, que ce soit des ordinateurs ou la manière dont ils pourraient travailler de manière assez sereine depuis chez eux. C'est une demande que vous avez clairement pris en compte.
Alors, la demande d'équipement informatique, elle a été prise en compte quand l'étudiant sollicitait le service social du CROUS. Mais il faut bien noter que les universités, les établissements d'enseignement supérieur ont été aussi très accompagnateurs dans cette demande et l'étudiant pouvait soit solliciter son établissement, soit solliciter le CROUS. Il y avait des aides complémentaires qui pouvaient être mises en place, mais oui, ça faisait partie des demandes que le service social du CROUS a été sollicité. Peut-être pas en majorité, parce que je pense que les étudiants se sont tournés plutôt vers leur établissement de rattachement. Mais oui, on en a eu quelques-unes demandes sur ce côté-là.
Et de ce que j'ai pu voir, il y a également eu la mise en place de chèques services attribués aux étudiants. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste ?
Alors, tout à fait. Ça a été mis en place dès le départ du confinement. L'objectif, c'était de pouvoir attribuer aux étudiants qui faisaient part de difficultés financières, des chèques services. Alors un chèque service, c'est comme un bon d'achat et c'est un chéquier de 100 euros qui est composé de plusieurs chèques de 5, 10 ou 20 euros et qui permet à l'étudiant dans n'importe quel magasin qui bien sûr accepte le principe de ce bon d'achat de se procurer des produits de première nécessité. L'objectif, c'était d'avoir un complément par rapport au repas, vous voyez, parce qu'un étudiant, bien sûr, a des besoins autres qu'alimentaires et produits d'hygiène, notamment. Voilà, on sait aussi que ça fait partie des besoins des étudiants dans la précarité ou l'accès aux produits d'hygiène est peut-être, et même pour certains, compliqué. Donc, ces chèques-services, on les a mis en place dès la mi-mars, avant même le confinement, vous voyez, parce qu'on avait anticipé ce besoin. Et c'est un peu plus de 150 étudiants qui ont été aidés dans ce contexte-là à raison de 100 euros par étudiant.
En termes d'aides supplémentaires, le gouvernement a promis 200 euros supplémentaires qui vont être reversés pour les étudiants. Ça devrait se mettre en place à partir de cette semaine et puis après être reversé sur les semaines et les mois à venir. Globalement, comment ça va s'organiser ? Est-ce que vous avez eu plus d'informations là-dessus ?
Alors, c'est aujourd'hui, le 12 mai, que la plateforme pour justement l'aide exceptionnelle de 200 euros pour les pertes de stage et d'emploi pour les étudiants se met en place. Donc, c'est aujourd'hui, c'est à partir d'aujourd'hui que les étudiants peuvent saisir sur la plateforme dédiée MSE leur demande. Et donc le CROUS instruira ensuite les demandes pour verser cette aide de 200 euros qui est forfaitaire avec des conditions à remplir d'éligibilité de l'aide. Mais il y a la circulaire du ministère qui lance les opérations ce 12 mai. Voilà. Donc oui, c'est une nouvelle aide complémentaire qui s'ajoute à toutes les aides déjà existantes, hein. Bien sûr, ça vient pas au détriment de l'accompagnement financier du CROUS ou des chèques-services. C'est bien sûr quelque chose de complémentaire et cette aide, elle est versée, qu'on soit boursier ou pas boursier. Vous voyez, c'est par rapport, le critère, c'est la perte de stage ou d'emploi qui, pour certains étudiants, bien sûr, a engendré encore plus de difficultés financières.
Les étudiants de l'université ne vont pas reprendre l'école d'ici septembre, ça a été annoncé. Le confinement est levé. L'ensemble des actions du CROUS vont quand même être maintenues en place jusqu'à ce que les élèves puissent reprendre l'école ?
Tout à fait. C'est-à-dire que sur la fin du confinement, au niveau de l'hébergement, pour les étudiants, a plusieurs conséquences. Un étudiant qui était parti en mars ou en avril, surtout en mars, au moment où s'il souhaitait, il pouvait rentrer dans sa famille. Aujourd'hui, avec la fin du confinement, il peut revenir reprendre son logement et terminer l'année et demander après son renouvellement. Donc, vous voyez, on gère aussi ce retour-là. Ou alors, l'étudiant, à contrario, qui était confiné, peut quitter son logement. Donc aujourd'hui, et là dans les prochaines semaines, on va gérer les retours ou les départs des étudiants. Et donc, on a écrit fin avril aux étudiants pour leur faire part des modalités pour organiser les états des lieux, le nettoyage des logements et faire en sorte que tout se passe dans le respect des gestes barrières et de la distanciation physique pour, bien sûr, protéger les personnels. Donc, au niveau de l'hébergement, ça fait partie de la priorité. Sur les services, les missions essentielles, les services centraux, on poursuit les instructions des bourses. On poursuit l'instruction des demandes de bourses et de logements pour la rentrée prochaine. Ce calendrier, lui, il ne s'est pas interrompu. Le fameux dossier social étudiant, il est mis en place et là, on est en pleine instruction de ces dossiers. Donc, vous voyez, ça, c'est une priorité aussi par rapport à la rentrée prochaine. On a beaucoup, beaucoup de dossiers à instruire. Et sur la restauration, eh bien là, on essaie de voir, en fonction des besoins exprimés aussi par les établissements pour leur personnel, parce que, comme vous l'avez dit, il n'y a plus de cours en présentiel, ou si des établissements organisaient des examens en présentiel, pour la session de juin, par exemple, là, on mettra en place aussi une offre de restauration. Donc là, aujourd'hui, nous, on a mis en place notre plan de reprise de l'activité, même si l'hébergement n'a pas arrêté son activité, pour la fin du confinement jusqu'à l'été. On attend début juin à voir s'il y a de nouvelles mesures qui sont prises par le gouvernement, qui impacteraient aussi notre gestion. Et puis, par contre, pour la rentrée, là, aujourd'hui, il est trop tôt pour savoir comment les choses vont être organisées dans les établissements, la reprise des cours en présentiel et nous, après, notre activité. Mais voilà, nous, en tout cas, on est en pleine période de déconfinement, d'accompagnement des étudiants dans cette nouvelle phase, je dirais.
Un deuxième confinement, selon vous, serait dramatique pour des jeunes étudiants?
C'est compliqué de vous répondre. Moi, je lui répondrais sur deux points. Dramatique sur un plan personnel de revivre un confinement pour certains étudiants sûrement. Sur un autre plan, ils sont maintenant ils ont connu cette période de confinement, donc ils savent ce que c'est. Et puis progressivement, chacun a pu trouver d'autres modes pour y faire face. C'est sur la question de la précarité, la question de l'accompagnement financier. Aujourd'hui, les aides existent, le soutien est là. Donc moi, je pense pas que ce serait dramatique, sauf pour certains étudiants. Personnellement, vous voyez, sur un plan psychique et sur un plan vraiment de personnel, mais sur un plan au niveau du CROUS, nous, j'espère qu'on n'en arrivera pas là, parce que c'est vrai que c'est difficile après à gérer, mais on fera face si une telle mesure était décidée. Moi, je ne souhaite pas, voilà, ni personnellement, ni professionnellement, ça c'est sûr.
Alors, lorsque les étudiants sont en confinement, il y a un risque d'isolement qui est assez présent. Pour conclure ce moment d'échange, il y a beaucoup de CROUS en France qui sont associés pour mettre en place des activités en ligne, que ça soit du yoga, de la danse, de la cuisine, etc., pour avoir un contact et une activité. Ils ont créé un groupe, notamment Facebook, qui s'appelle Chilton CROUS. En Pays de la Loire, c'est quelque chose qui a été pensé ou qui peut être pensé là, d'ici la fin du confinement pour les étudiants en université?
Alors, nous, au niveau du CROUS de Nantes, on a bien sûr relayé toutes les initiatives pour lutter contre l'isolement. On a mis en place une boîte à outils sur notre site internet anti-ennui, où on retrouve le groupe Facebook Chilton CROUS. Et nous, on a aussi proposé des activités de culture, de cuisine, de sport, de lecture, de musique, de visite de musée. Donc, on a mis en ligne, c'est ce qu'on appelle, nous, c'était une boîte à outils anti-ennui. Comment s'occuper pendant le confinement, où trouver, où s'amuser. Donc, on a bien sûr contribué à cette animation avec nos collaborateurs qui étaient sur le domaine de la culture, où il y avait aussi des cours de yoga, voilà, toutes les activités possibles. Donc, les Pays de la Loire ont bien sûr été partie prenante aussi de cette animation.
Globalement, pour terminer, vous avez pu avoir quelques retours sur ces initiatives, ça a été globalement positif?
Les retours qu'on a eus, c'est via les étudiants, certains étudiants logés qui ont fait part de leur intérêt auprès des personnels dans les cités. Moi, j'ai pas de retour sur la globalité du CROUS, mais des échanges avec mes collègues m'ont fait penser que oui, ça a été utile. Après, ça ne remplace pas une activité en présentiel, hein, parce que la culture à distance n'est pas forcément idéale. Vous voyez, nous, on a notre galerie mobile au niveau culturel qui a été mise en arrêt pendant 2 mois. Donc là, on va la réenclencher, parce que c'est vrai que la culture et les échanges à distance, je pense que ça ne peut durer qu'un temps. Voilà. Et c'est vrai que là, au niveau sportif également, donc on a après nos services civiques, nos agents qui vont pouvoir aussi reprendre dans le respect des gestes barrières. Donc on va pas pouvoir tout reprendre, mais idéalement, voilà, on va essayer de recommencer, de relancer ces activités-là.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour parler de ces situations préoccupantes.
Merci à vous pour cet échange. Merci.
Vous êtes toujours sur Radio Campus Angers. Merci à Quentin et à Corinne Vadé d'avoir répondu à ces questions pour compléter notre état des lieux sur la situation des étudiants. Pour la suite, je vous propose que l'on plonge dans l'univers du groupe angevin d'Oxford Friends en découvrant leur tout nouveau single Sorry I Quit, sorti durant cette période de confinement, accompagné d'ailleurs par un clip participatif plutôt chouette. Je vous laisse écouter ça et on se retrouve juste après. êtes toujours notre Covidienne sur Radio Campus Angers. On continue avec un nouveau plongeon au cœur des acteurs locaux grâce à notre série de reportages Murmure, notre cher guide sonore des territoires. Et pour ce soir, je vous propose de partir en découverte dans une classe de cours lors d'une prévention aux côtés de l'association ACVS 49 qui lutte contre le harcèlement et les violences scolaires.
Le principe de harcèlement, l'éducation, tu commences avec le harcèlement et après tu
fais le harcèlement, tout ça, puis je te passe la main sur toi.
Ok, nickel.
5 rue Saint-Exupéry, lieu de permanence de l'association ACVS 49, qui nous emmène aujourd'hui en prévention avec...
Je suis Olivier Laurendeau, le président fondateur de l'association ACVS 49, qui veut dire Agir contre les violences scolaires. Cette association, c'est dans un premier temps une réponse, parce que notre fils a subi du harcèlement, principalement entre le CM2 et la 3e, qui avait démarré dès le CEP.
Ce jeune homme qui est victime de harcèlement parce que différent.
Là, il est différent pour nous. C'est quelqu'un lambda.
Bon, je vais vous aider, il est né en Belgique. Non, il n'est pas belge, il est né en Belgique, je dis.
Donc ce soir, on est accueillis au CFA des Compagnons du Devoir à Angers, où on va travailler avec eux le harcèlement, le cyberharcèlement et la notion de sexisme. Et on travaille vraiment avec les demandes des établissements. Et ça nous permet des fois de mettre des ateliers ludiques, de faire de la création d'affiches pour participer au concours non-harcèlement. Vraiment d'adapter notre parcours de prévention avec les établissements pour coller à leurs problématiques.
Je vais démarrer par une petite vidéo qui va placer un peu l'échange, et après on en discutera. Vous me direz ce que vous en avez pensé.
Demain, on va te frapper. Connard !
Gros lard !
On a deux grands objectifs au sein de l'association. Le premier, c'est de faire des actions de prévention et de sensibilisation dans les établissements scolaires, de la petite section jusqu'aux écoles supérieures, sur différentes thématiques. Le bien vivre ensemble, le harcèlement, le cyberharcèlement, le sexisme, les réseaux sociaux. Et puis des actions de sensibilisation à destination des parents. Et puis sinon, on fait des formations aussi pour les professionnels. On a une mission écoute jeune au sein de l'association. Et le but, c'est de recevoir des jeunes qui ont du mal à parler à un adulte ou ils ne sont pas prêts à aller voir un thérapeute, mais ils sont prêts à parler à quelqu'un qui peut représenter un grand frère ou une grande sœur ou voilà, quelqu'un qui peut être rassurant. Et cette mission permet de faire en sorte que le jeune se sente mieux, se sente valorisé, retrouve une estime de soi et que le jeune après parte sur un parcours quand même de soutien psychologique pour avancer dans sa vie, pour comprendre que c'est pas de sa faute.
On trouve ça intéressant de faire un point sur le cyberharcèlement parce qu'on est de plus en plus concernés, notamment lorsqu'on rentre dans le milieu du travail.
On a une équipe de jeunes, puisqu'on accueille à partir de 16 ans au sein de l'association, sur leurs compétences, et on leur donne vraiment une valeur ajoutée. On recherche toujours à développer nos actions. Et puis le bénévolat, c'est le temps qu'on veut donner. On est aussi à la recherche de soutien financier. On voudrait lancer le 1 euro challenge contre le harcèlement. Donc en gros, à la machine à café, on met 1 euro pour avoir son café, puis on met 1 euro dans un petit gobelet en pensant que on va participer à la lutte contre le harcèlement.
Ouais, ça vous a intéressé ?
Ouais.
C'est bien ?
Ouais.
Bon, on vous remercie alors.
Murmure, le guide sonore des territoires.
Vous écoutez Les Bonnes Ondes du 103 FM. Après ce retour en cours et cette sensibilisation au harcèlement, nous allons doucement terminer l'émission en écoutant Chances de Monophonix et on se retrouve juste après sur Radio Campus Angers.
Thank you.
il est temps pour nous de clôturer cette émission. Vous pouvez retrouver le podcast sur notre site radiocampusangers.com dans la rubrique Covidienne. Pour nos reportages immersifs, ils sont à découvrir sur le site murmure.org. Je vous donne rendez-vous demain à 19h pour la dernière Covidienne de la semaine. Soyez au rendez-vous et d'ici là, prenez soin de vous et passez une bonne soirée sur le 103 FM.